les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h. Et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Martine Lataste.
Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Effectivement, je reçois Martine Lataste, artiste plasticienne, artiste peintre, pour être plus précis, dessinatrice et aussi musicienne. Donc on va en parler. Pour cela, on a du monde aujourd'hui. Nous sommes entourés par Léo, qui est un ancien étudiant d'art graphique et qui pratique les arts martiaux, entre autres. Et nous avons Jean-Claude Fournier, qui est artiste montalbanais, plasticien, dessinateur et peintre, qui a passé déjà ici dans les ondes de CFM. Et que nous. Ah, aussi, pardon, j'ai oublié de mentionner Laurence, qui peut-être va intervenir aussi. Laurence est une amie qui t'accompagne aujourd'hui, Martine. Donc, Martine, bonjour, bienvenue à Montauban.
Bonjour, Rosendo. Oui.
Alors, je disais tout à l'heure que tu, en plus d'être une artiste plasticienne, tu es musicienne aussi.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et selon les fiches que je lis sur toi, tu as eu, c'était une concurrence que tu as eu la musique qui a empiété un petit peu sur ta carrière artistique picturale. Et du coup, tu as arrêté pour l'accordéon. C'est ça?
Ouais, c'est un petit peu ça. Oui. Voilà, j'ai eu une rencontre en 99-2000 avec les demoiselles qui étaient en train de former le groupe Bombe de Balle. Mmh. Et là, j'ai travaillé dans l'audiovisuel, je faisais du film d'animation, je faisais plein de choses, j'étais déjà intermittente du spectacle et je touchais déjà beaucoup d'instruments de musique. Et elles m'ont proposé de partir à l'aventure dans les Bombes de Balle. Du jour au lendemain, j'ai pris mon accordéon, j'ai foncé, ça a duré 12 ans. 12 années.
Ah, 12 années. Oui. 700 concerts internationaux, apparemment.
Oui, à peu près, ouais.
Oui.
Mais on n'a pas arrêté, on a pied au plancher, oui. On n'a pas arrêté de jouer, de faire plein de choses.
Oui, tu as mentionné que, avant, tu étais intermittent de spectacle et que tu travaillais dans les cinémas ou quelque chose comme ça?
Oui, je faisais des petits films d'animation pour l'éducation nationale avec le CRDP de Toulouse.
Oui, il faut rappeler que tu as un DEA des cinémas et que tu as eu aussi les diplômes d'art plastique au Toulouse Mireille.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà. Ces parcours académiques, ces parcours institutionnels avant de devenir une artiste à temps complet, est-ce que tu crois que c'est nécessaire pour avoir une vision un petit peu plus solide de ce qui nous arrive dans le monde de l'art ou...
Ah, complètement. Moi, mes années de faculté en art plastique, c'était une immersion complète dans l'esthétique de l'art, dans l'histoire de l'art, dans la philosophie de l'art. J'ai été baignée 24 heures sur 24 pendant 6-7 ans là-dedans. Et ça m'a permis d'avoir un œil sur la pratique artistique aujourd'hui assez développé quand même.
Voilà. Justement, on avait parlé avec Jean-Claude Fournier qui est présent ici. Je vais le réveiller là parce qu'il nous regarde. Il n'a pas l'air de trop intervenir, mais je vais te pousser un petit peu, Jean-Claude. Tu te souviens?
Il va tomber. Hein.
Oui. Donc, avec Jean-Claude, on avait parlé un petit peu sur ses parcours. Et tu avais, Jean-Claude, un regard critique vis-à-vis à l'école des Beaux-Arts. Oui, je ne parle pas de la fac de l'université de Toulouse Mireille, mais dans lesquels tu disais que les gens vraiment on apprenait rien du tout et que tu même tu t'es ennuyé dans l'école des Beaux-Arts de Toulouse.
Oui. Tout à fait. Mais je crois qu'on ne fait pas partie de la même génération. Je dois avoir quelques mois de plus que
Martine.
Donc bon, voilà. Je crois que c'est une affaire de génération aussi. Donc je peux pas avoir de jugement sur ce que tu as fait après ta nourriture au niveau artistique. Mais effectivement, moi j'arrivais dans les années 70 et je pense que c'était en préparation, c'était davantage une proposition qui n'était pas encore établie. Moi étant d'autres, on a été entre guillemets victime de cette expérimentation. Voilà.
Et Léo, puisque tu es là, oui, vas-y.
quand tu es en train de raconter ton cette anecdote, je pense pas que ce soit une affaire de génération, parce que moi, mes études d'art, elles m'ont aussi, enfin, je suis ressorti aussi dégoûté de mes études d'art, hein, quand même. C'est-à-dire que je suis entré dans mon école d'art plein de passion pour le dessin, la peinture, et j'en suis ressorti totalement dégoûté, quoi. Donc, je pense que c'est, enfin, pour moi, c'est plus une notion de personne, d'humain, que d'époque, peut-être.
Oui, non, mais c'était un peu par facilité que je disais ça. Et ce que tu dis, c'est tout enfin, à mon avis, il faut trouver sa propre nourriture. Et alors, ce n'est pas dans des exercices théoriques qui, en définitive, ont une coupure avec l'histoire de l'art antérieur. Hein, pour résumer, j'ai davantage appris en faisant qu'un exercice. Ce que je disais l'autre jour, parce que j'ai réécouté la fabuleuse émission de Rosendo, effectivement, je crois qu'on apprend ce que l'on sait déjà.
Voilà. Eh ben, écoute, Jean-Claude, je suis complètement d'accord avec toi. Tout ce que j'ai appris en théorie, tous ces professeurs qui nous ont appris à théoriser et tout ça, ça n'a jamais changé le fait que je pratiquais déjà depuis super longtemps. Et des fois, je me suis même demandé si j'avais pas rencontré ce parcours universitaire, est-ce que ma pratique en aurait été changée. Mais je peignais, je sculptais, je photographiais déjà avant tout ça, et je le prends comme un plus. En parallèle, mais ça, j'ai essayé de rester moi-même.
Martine,
de quoi que ça dérange pas trop mon jardin secret et de ce que j'avais envie.
Justement,
on
va parler de ton jardin secret, Martine.
Je vais vous ouvrir mon petit.
Oui, il y a un volet de notre émission qu'on va dévier pour décrire un de tes tableaux. Mais je voulais juste revenir sur la musique, parce que me semble très très important dans ta vision de l'art, parce que la peinture est festive, on a envie de danser même en voyant de tes tableaux. On va développer tout à l'heure. Et dis-moi.
Ça veut dire que tu vas danser là,
oui,
dans
oui,
le
oui.
studio.
On va faire danser, on va faire la fête ici avec tout ce bon monde qui est autour. Donc, l'accordéon. J'avais croisé une artiste accordéoniste brésilienne, Rita Macedo, qui faisait duo avec François Chapuis dans les environs de Toulouse. Et j'étais charmé par cette joie. Et là maintenant, Orantena, tu m'as dit que tu l'avais rencontrée et que c'était elle qui t'avait donné envie de prendre l'accordéon. Alors raconte-nous comment ça s'est passé.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que fin des années 90, je suis fan du nid musical toulousain qui est Arnaud Bernard.
Mm-hmm. Avec Jean-Claude Sicre,
les fameux troubadours, les fameuses les fouteuses de Wai. Je vais voir ça et je dis, mais c'est fou, c'est génial, c'est simple, ça te donne envie de bouger, de danser. C'est dingue, quoi. J'ai complètement adoré ce style musical où l'accordéon n'était pas tout ce style musette classique qu'on voulait bien en dire, et proposer vraiment une version de l'accordéon géniale qui a été relayée par le rock en France et tout ça, par les Têtes Raides et tout ça, qui proposait vraiment une façon de faire de l'accordéon autre que tout ce que vous en savez autour du musette, etc. Et donc quand j'ai découvert ce style, j'ai flashé, j'ai trouvé ça génial parce que c'était festif, et quand on m'a proposé de jouer dans un groupe qui partait de l'école d'Arnaud Bernard, moi j'ai dit oui tout de suite. C'était les bombes de balles. Oui. Et Rita m'a aidé, je suis allée la voir et tout ça, et c'était ce style là c'est du forró, en fait. C'est
forró, c'est brésilien.
Brésilien. Oui, oui. C'est le bal du nord-est du Brésil.
Du Brésil, oui, oui. On va en parler aussi sur ce film aussi qui nous a marqué. Oui, oui, Jean-Claude, vas-y.
Ce qui est surprenant, c'est deux univers, l'univers musical en groupe et quand même l'univers pictural où on est seul. Et donc, j'ai pas trop de questions, mais c'est pas que je conçois mal, mais même dans l'environnement, c'est peut-être un cliché, mais je vois presque le peintre en opposition avec l'ambiance musicale. Ou c'est pour ça que ces trucs de performance, je comprends pas très bien les gens qui peignent devant les, ils appellent ça performance.
Oui, on appelle ça une performance.
Devant les autres, avec je n'arrive pas à.
Enfin, oui. Excusez-moi, Jean-Claude, on va répondre peut-être et commenter ta question. Juste, puisqu'on a parlé de la musique, on va revenir.
Oui, oui.
Excusez-moi. Et sur la musique, justement, mais on est vraiment, vraiment à l'enfance, ou peut-être avant que Martine Lataste naisse, parce qu'on va écouter une musique des années 70, une musique, voilà, que vous allez reconnaître.
Des Beatles. Il y avait une petite ritournelle à la fin qui repartait à la guitare. Et voilà, c'était un titre de 1970. J'avais moins 4 ans. Et j'ai usé ce 33 tours de mes parents. C'était juste la première piste. Hein. J'ai pas réfléchi. Quand j'ai su me servir d'un 33 tours, je mettais juste la première et je la remettais. Elle était tellement rayée que je suis très émue de l'avoir entendue ben, pour la première fois de ma vie, sans rayure, sans rien, grâce à CFM. Et voilà, plein d'émotions parce que j'ai choisi ce titre. En fait, j'ai tellement de musique dans la tête que je me suis dit ça parle un peu de moi aujourd'hui, soyons égoïstes, on va faire mon histoire. Premier titre, c'est un peu le bain de musical de mon enfance, de ma famille, donc les disques de mes parents. Voilà, tout simplement.
Merci Martine. Donc on va reprendre la question de Jean-Claude Fournier qui parlait sur les performances artistiques. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire Martine?
Alors moi ma performance est artistique en fait, c'est juste dans mon garage, toute seule, la musique à fond dans le casque, loin du monde, loin des gens, et seule au monde, en train de communiquer avec tous mes tableaux, du dessin, de la photo, je fais des petits films d'animation de mes tableaux en train de se faire. Enfin, j'ai pas l'impression d'être seule, mais Et je suis bien comme ça, quoi.
Mais c'est voilà. Quelque part, c'est
et j'ai bien aimé la réflexion de Jean-Claude parce que il y a ce côté justement à l'opposé de la performance en public où t'es seul. Et si tu travailles bien, tu as un écho de ce que tu crées qui te renvoie des choses à toi-même. Donc c'est une forme de communication solitaire. L'art, c'est pour ça que c'est le pied.
Une espèce d'oxymore, non, entre la communication solitaire ou les plaisirs solitaires de l'artiste.
Mais t'es trop intelligent pour moi là, j'arrête.
Donc, et on parle donc de ta production solitaire. Martine, et on a choisi ensemble un tableau qui me semble assez représentatif de ton travail, c'est-à-dire les balles de poules du carrousel. C'est un acrylique et sur toile de 40 cm de haut par 80 cm de large et c'est des couleurs acidulées. Il y a une dominante, une structure horizontale sur la couleur rouge et qui est tu as intervenu après avec des lignes très très graphiques, des lignes blanches par-dessus. Donc dans ta présentation de ton œuvre en général, il y a une présentation qui me semble assez une image sur ton travail, c'est-à-dire que tu as, Martine, tu repasses sur tes propres toiles et avec des traits fins et légers, des petites figurines douces et tranquilles sorties de nulle part, des visages antiques ou des masques étranges terminés au vernis épais. Et je te fais une petite référence parce que c'est très difficile à transcrire à nos auditeurs l'image de ton tableau. Et dis-moi, dans ton atelier, dans ton plaisir solitaire, comment est-ce que tu as produit cette œuvre, Les balles des poules du carrousel?
Alors, il y a 6 ou 7 ans, j'ai fait une série qui s'appelle Les anges à moteur. Il y a une 20aine de toiles que j'ai fait qui ont disparu, que j'ai vendues ou que j'ai données. Donc, il n'en reste plus rien. Et dans cette 20aine d'anges à moteur, c'était des anges super flemmards. Ils en avaient pas envie de se servir de leurs ailes. Donc, je leur ai concocté une télécommande avec un petit moteur à hélice pour se déplacer. Et donc j'ai exposé ce tableau d'un grand ange à moteur qui se balade et tout ça au restaurant L'Esquinade et personne m'en a rien dit, j'ai pas eu de réflexion et je me suis dit que c'était naze. Donc j'ai tout effacé et j'ai gardé que quelques éléphants qu'il avait dans son corps parce que j'adore l'image d'Épinal, pour moi c'est une grande référence, l'imagerie d'Épinal. Les formes qui s'emboîtent, qui appellent à la réflexion et tout ça. J'ai tout effacé. Je n'hésite pas, dès que ça me parle pas, à tout effacer, tout recommencer, tout remalaxer. Hein, c'est ça le plastique, au sens grec du terme, la matière. Pardon,
c'était le cas pour ces tableaux que tu as tout effacé, oui.
Je le trouvais rigolo, je le trouvais chouette, mais je suis assez perfectionniste là-dessus. Quand c'est pas terrible, il faut pas hésiter à revenir dessus. Et donc, j'aime bien le spectacle, tout ce qui est strass et paillettes, c'est mon côté kitsch. Donc j'ai fait les poules du carrousel, hein, un célèbre lieu de spectacle de la nuit à Paris. Et j'ai fait ces poules, voilà.
Mm-hmm. Il y a des couleurs acidulées, des couleurs très fortes, saturées, assez pétard quand même, qui invitent à la fête. C'est pour cela que je disais, ça donne envie de danser, parce qu'il y a des couleurs très contrastées. Par exemple, dans ces balles de poules, il y a une image du cirque presque.
Ouais, il y a le fameux tapis rouge du cirque, ou le tapis rouge des strass et paillettes, mais bon, c'est jamais trop sérieux, enfin, c'est jamais trop... Oui. Ce qu'il y a derrière, hein. On ne sait jamais trop.
Jean-Claude.
Oui, moi, je voulais te dire, Martine, je ne connaissais pas du tout ton travail.
Hein. C'est vrai, on s'est rencontrés tout à l'heure dans la rue.
Dans la rue,
oui, juste quelques minutes avant.
Et alors, tu sais ce que, peut-être ça va te faire sauter de ta chaise, parce qu'on est assis, mais il y a un territoire. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait.
On voit que tu as.
C'était dans mon sujet de maîtrise.
Il y a des gens qui ont une vie intérieure, je veux pas faire de hiérarchie, mais plus ou moins intense. Et là, il y a quelque chose qui parle de toi. Et dans la forme, ça me fait penser à un récit. Et alors, c'est là où tu vas peut-être... Je ne sais pas si tu connais les Shadok.
Ah, les Shadok.
Tu vois. Oui. Il y a quelque chose qui me fait penser à cette proposition légère de choses graves, parce que c'est, tu parles de nous, et, mais avec une politesse qui fait que, d'abord, visuellement, c'est agréable, c'est même visuellement, sans parler au Shadok, mais cette façon de, il y a certaines choses, là aussi, c'est une première impression, hein, je vais pas me donner le droit et en plus, je pense que c'est pas une question de s'appeler ou s'appeler pas, c'est ou c'est pas. Voilà.
Ouais, c'est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et il y a des choses qui me font penser à Dufy aussi. Il y a des choses, la légèreté de Dufy.
Tu vois, les aquarelles.
Tu vois ce que je veux dire?
Raoul Dufy.
Cette manière de dire avec beaucoup de légèreté, qui ne reste pas dans la légèreté parce qu'il y a un contenu. Mais je sais pas si tu acceptes le truc Shadok.
Il me semble que c'est pas une... Puis il y a un côté complètement chez les Shadok, ce que j'adore, c'est cette énorme activité pour qui est super futile, mais qui est en fait le sens de la vie aussi.
Quand tu as parlé de films d'animation, bon, là aussi c'est peut-être une facilité, mais je trouve que il y a quelque chose qui correspond essentiellement à ce que tu es. Tu as trouvé des... Enfin, t'es encore jeune, mais je trouve qu'il y a beaucoup de maturité, quoi.
C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup.
Et c'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer.
Je vois qu'elle est restée happée par ces images.
Oui, totalement. Tes tableaux m'embarquent.
Oh, c'est cool.
Leur joie, leur couleur, c'est vrai que c'est assez hypnotique pour moi.
Ben, vous savez, ce fameux tableau dont on parle, je l'ai fait assez instinctivement. Et beaucoup de gens m'ont fait des retours positifs. Ils ont été fascinés, alors que c'était mon petit monde à moi, mon univers, mes fils de fer qui font des hommes, femmes étranges, avec des strings qui ont des ailes. Enfin, voilà.
Mais la facilité du regard extérieur, c'est que c'est comme si on proposait notre travail avec 150 pages. Le type, il ouvre à la 43e page, il lit la troisième ligne et il referme le livre. Autant Rosendo que toi, et ces jeunes-là, c'est un récit de vie, c'est un livre ouvert. Alors, je crois qu'il faut faire la césure entre les gens qui regardent ça, parce qu'on dirait que le but, c'est de leur plaire. Hein. Ils voient, moi j'ai une connaissance qui arrive de Thaïlande et qui dit, oh, ça m'a pas plu. Ah ben merde, alors, c'est un peu merdant. Hein. Non, je crois qu'il faut avoir la curiosité d'aller chercher et de faire l'effort de trouver le lien. Et de pas simplement se résumer à un tableau, mais le tableau est l'aboutissement, la suite et puis l'énergie nécessaire pour autre chose. Oui. Est-ce que tu reprends des tableaux que tu as fait il y a quelques années, etc.?
Oui, je les reprends, je les ressors, je les module, je les modifie. Je les efface. C'est la matière qui bouge. Hein.
Je te pose des questions comme ça en tant que professionnel. Ouais. Est-ce que tu travailles à l'envers?
Non. J'ai jamais essayé à plat, mais pas.
Oui.
Allez, Jean-Claude, fini,
parce que c'est intéressant aussi. Moi, je travaille souvent à l'envers. Tu vois, ce qui me détache du sujet et ce qui me rentre davantage dans la peinture, parce que effectivement, on sent bien que tu as bien quelque chose à dire et que c'est ce quelque chose est primordial par rapport. C'est pas la peinture décorative gratuite et encore une fois c'est un contenu et donc c'est aussi, on en avait parlé avec Rosendo, c'est un effet d'optique, je veux dire c'est la rétine qui est là. Bon, vas-y.
Tu voulais dire quelque chose par rapport à s'efforcer, Jean-Claude, ou pousser ses habitudes, par exemple. Non, on peut peindre ou dessiner dans le noir, ou dans l'obscurité, ou changer la composition.
J'ai l'impression qu'on a une nature qui déjà en amont, sélectionne certains sujets. Mmh. Tu vois, je me suis surpris il y a quelques mois ou je sais pas à regarder, aller voir le musée Ingres, comme je vais souvent, et à regarder avec patience un bouquet de Delacroix. Mmh. À la limite, je vois pas pourquoi on fait des bouquets. Il suffit de les couper et puis de les mettre. Bon, et j'ai bien compris que avant, ce qui me gênait, c'était moi. Je me gênais, moi, avec ma sélection et mes idées préconçues du sujet, et je n'arrivais pas à voir Delacroix, ce bouquet, c'était un bouquet de fleurs, parce que j'avais un présupposé sur le goût, tu vois ce que je veux dire,
ouais,
sur le sujet.
Ouais.
Et là, avec l'âge, son moi et ses préférences, on les met de côté, et on est beaucoup plus lié à la peinture en elle-même et surtout
à la matière.
Moi, j'aime.
Excuse-moi,
oui, excuse-moi.
Désolé, parce que sinon, on ne va pas y arriver à faire les portraits des Martines. Je suis obligé à te
couper.
Non, mais
c'est oui. Comme ça qu'on fait mon portrait en discutant.
Oui, mais justement, il y avait un portrait d'un artiste dont je voulais te parler. Mais on va le laisser pour le troisième volet, après la musique, parce que j'avais envie quand même que nos auditeurs connaissent à travers toi cette ambiance du forro, cette musique à des balles. Traditionnel brésilien. Donc, on va écouter.
Super. Écoutez Shot das Meninas, un morceau tiré du film Saudade do Futuro, un film extraordinaire sur l'histoire de la musique du nord-est du Brésil de César Paes. C'est un film qui a marqué profondément ma façon de voir la musique.
Comment ça, Martine?
Parce que la musique, c'est dans le nord-est.
Brésilien
et dans beaucoup d'autres endroits, mais ce film parle du nord-est du Brésil. La musique là-bas, ça fait partie de la vie sociale et civique à 100%.
Oui, et j'aime bien cette appréciation que tu fais, hein, sociale et civique. Oui, c'est une espèce d'engagement citoyen.
Oui.
Je peux dire un truc.
Oui, Jean-Claude.
Je viens de dire voir la musique.
Voir la musique, hein, oui.
C'est pas écouter la musique, c'est voir la musique.
Et même boire avec P.
Non, mais c'est marrant. Parce que de voir la musique, hein, on dirait que la vision est quand même
impliquée
dans ce...
Oui.
Non?
Oui.
Mais ça a été la problématique de mon adolescence. C'est je veux peindre la musique, mais comment on fait la plastique de la musique, du rythme, donc clic, andisky, tout ça.
Oui, mais, clic, exactement.
Ouais. Clic. Ouais. Et mais bon, de le voir au Brésil aussi pour y avoir été et de le vivre avec les bombes de balles, on y est allé. Pour voir ça, se vivre dans la rue, la musique au quotidien. Là,
comment vous avez reçu au Brésil, à la rue, au moment que vous êtes là, votre groupe, comment a été reçu, alors?
Ben, ils ont halluciné de voir que des Français voulaient faire
des Françaises, surtout.
Oui, ouais. Il y avait un garçon. Mais ils ont halluciné là-bas, qu'on veuille faire ce style de musique traditionnelle bien précise en France. Ils ont dit, vous faites ça?
Oui.
Bon, vous êtes venu de là-bas, de si loin, pour apprendre à faire ça. Oui. Et voilà.
Et Léo, je ne sais pas, peut-être que tu avais une question à poser au sujet de la consommation de l'art dont nous parlons
Je ne sais pas, c'est une question, c'est juste un étonnement Tu parlais de consommation de l'art tout à l'heure et on a plusieurs invités qui ont parlé de consommation de l'art. Moi, ça me semble tellement... Je tombe des nues quand j'entends ça. Alors,
j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais dans tous les musées du monde, tu as des parapluies avec des Van Gogh, des Picasso, des stylos, des machins. Ça a commencé depuis bien... On s'en est pas rendu compte. Ça a commencé depuis très longtemps. Et ce côté... ça, c'est anecdotique, le côté gadget avec l'art. Mais aujourd'hui... Les gens, ils minimisent beaucoup l'importance de la culture artistique aujourd'hui, quoi. C'est un peindre, c'est encore colorier, c'est encore comme faire de la musique, c'est un truc vraiment parallèle. Et donc, ils se pensent spécialistes de la peinture et du dessin et tout ça. C'est des grands spécialistes alors qu'ils y connaissent rien, la plupart des gens. Ils disent moi j'aime pas parce que c'est trop jaune, non ça irait pas chez moi, non ça j'aime pas. Ils réfléchissent pas, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, c'est l'art, il faut quand même avoir un peu d'humilité pour le juger, il faut avoir un peu être connaisseur, il faut arriver un peu devant une œuvre d'art ou à un tableau ou à une BD, il faut réfléchir à qui on a affaire. Il y a ce côté s'intéresser au territoire aussi.
Moi, quand je vais dans un musée ou quand je vais dans une expo, ce que je regarde d'abord, c'est je m'arrête devant le tableau, je reste, 5 minutes devant le tableau et je regarde ce que ça me fait, tu vois. Parfois, je regarde même pas qui est l'artiste, tu vois. Pour moi, c'est ma conception de l'art, hein. C'est d'ailleurs ce qui m'a dégoûté pendant mes études d'art, c'est le côté décortiquage de l'art, ça m'a bloqué. Moi, quand je vis dans un tableau, quand j'écoute une musique, quand je vois quelqu'un bouger, il faut que ça me... Enfin, on est des créatures d'émotion, de sensibilité, tu vois, il faut que ça déclenche quelque chose, tu vois. Pour moi, qui l'a fait, pourquoi il l'a fait, pour moi, ça vient après. Mais après, c'est ça concerne que moi. Mais il y a un côté où quand je suis devant une œuvre d'art, ce qui est important, c'est ce que ça déclenche en moi, en fait, profondément.
Il y a eu un discours qui a joué parfois en détriment de l'art, mais à mon avis, au départ, c'était tout à fait lucide, que c'était le discours de Marcel Duchamp, parce qu'il avait fait un canular en présentant un urinoir, en signant avec une signature qui n'était pas à lui, en parlant bien en troisième personne, et en achetant cette œuvre. Et après... Il a dévoilé les canulars en disant « Vous voyez, je vous ai mené un bateau. C'est que vous avez vu un urinoir là. Et c'était signé Robert Mood. C'était moi qui l'ai fait, mais je ne le disais pas. J'ai écrit un article à faveur de cette œuvre. Ensuite, je l'ai acheté. Je fais monter les enchères. Et tout le monde a cru parce qu'on consommait de l'art comme si c'était une marchandise. Et je vous ai mené un bateau, maintenant je vous explique comment c'est possible de construire les concepts de l'art quand on maîtrise la production, la distribution de l'art et la consommation de l'art. Donc du coup, il nous a démontré déjà, c'était en 1917 avec son Ori Noir, et je profite cette référence à Marcel Duchamp dans l'art contemporain, parce que il y a deux artistes, il y a un autre artiste dont je voulais parler grâce à la convocation qui nous fait de Monsieur Tremblay, qui est un artiste contemporain, Martin Daniel Tremblay, oui, parce que il faut pas oublier qu'il y a une histoire qui est lucide, qui est cohérente, qui est quand même un chemin, je pense, à prendre en référence, non pour faire la dictature de son observation, de son intuition, d'un tableau, comme tu disais, Léo, mais pour avoir une référence, pour ne pas être soberbe, pour ne pas être orgueilleux et dicter sa loi vis-à-vis de l'observation d'une œuvre, mais pour être humble et dire, bon, il y a eu ça avant, et qu'est-ce que veut me dire, quel sens existe. Et du coup, et je voulais citer un autre artiste que tu as mentionné dans ta fiche, Martine, c'est Brancusi, parce qu'en 1927-28, il y a eu un procès qui a basculé la perception juridique de l'art, c'est-à-dire qu'il avait envoyé, je pense que c'était une œuvre, Les vols d'oiseaux, la douane des États-Unis, on l'a refusé parce que pour les policiers, c'était de la chatarre, j'utilise un mot qui ne convient pas, c'était de la ferraille, et ça a suscité un scandale pour voir qu'est-ce que c'était, pour juger qu'est-ce que c'était une œuvre d'art. Et c'est à partir de 1928, avec ce procès, fameux procès qu'il y a eu Brancusi contre les États-Unis, qu'on a essayé de mettre un peu les points sur les i, sur ce qui est et ce qui n'est pas une œuvre d'art. Mais malheureusement, ça s'égriffe, ça parasite, ça pollue beaucoup de discours abscons pour légitimer certaines pratiques qui sont un peu la contrebande ou les parasites de l'art pour faire n'importe quoi et donner une notoriété à base de la publicité de ce que j'ai dénoncé Marcel Duchamp. Excusez-moi, je me suis lancé dans cette tirade de références historiques parce qu'il me semble que c'était nécessaire. Bon, Daniel Tremblay, donc, comment tu l'as découvert? Parce que c'est un artiste qui est mort jeune quand même, mais c'est un artiste qui n'est pas très connu dans les... Bon, il était très très connu dans les... Parce qu'il est mort à 35 ans, au moment que... Et Jacques Lang était encore au pouvoir dans le ministère de la Culture. Et la gauche, la soi-disant gauche, a poussé beaucoup de ces artistes alternatifs, dont Daniel Tremblay.
Simplement parce qu'il a fait l'école des beaux-arts avec ma maman.
Ah.
Et j'ai pu le découvrir, c'est elle qui m'en a parlé. Il a une poésie qui se dégage de ses œuvres. Avec une installation avec des bottes en caoutchouc juste un peu arrangées, on dirait que c'est une chorale qui chante sous les étoiles, des profils découpés dans des paillassons qui soufflent des étoiles, enfin prendre les objets du quotidien basique et en faire en sortir une poésie incroyable. Et le faire de la poésie et donner du rêve avec trois fois rien, moi c'est ce que j'aime faire dans n'importe quoi que je peux. Photos, nouilles, chaussures, accordéon.
Oui.
J'essaie de faire ça. C'est ça mon but. Moi je suis pas peintre, je me sens pas dessinatrice, je me sens pas photographe. Je me sens juste un peu tout à la fois, pas vraiment spécialiste de tout, mais surtout artiste. Enfin, j'essaye. Il y en a qui disent que c'est vilain ce mot, mais faut bien en trouver un.
Oui, je te présentais comme artiste peintre et pour résumer.
Oui, faut quand même un mot générique. On va commencer. Ça, c'est bien quand même. Ça
oui,
me va.
Oui, mais dans cette description que tu fais sur ton travail, tu me semble que tu veux apporter plutôt les côtés artisanaux, le côté bricoleur.
Oui, j'adore les gadgets, la bricole, je suis fan de ça. Et c'est bien d'être bricoleur, hein, pour quand on crée, ça nous sauve de situations où des fois on n'avance plus, on ne sait pas quoi faire. Et et passer chez les magasins de bricolage et leur dire « Je peux aller dans les bennes à ordures derrière, s'il vous plaît, là ? Je peux récupérer les chutes de bois, je peux récupérer les chutes de n'importe quoi. » Et là, de toutes ces formes, de toutes ces rencontres au hasard dans une benne ou dans un vide-grenier ou quoi, ben, il y a des histoires à créer.
Pour revenir un petit peu à ton histoire personnelle, à travers Daniel Tremblay, parce que Daniel Tremblay, c'était le camarade de classe de ta maman. Donc ça veut dire, ça, je l'ignorais, que ta maman aussi faisait...
Oui, ma mère, elle est graphiste peintre.
Oui.
Voilà.
Oui.
Faudrait qu'elle vienne un jour.
Ah oui, il faudrait qu'elle vienne. Oui, elle est où, à Caen aussi?
Ou elle est à Toulouse.
À Toulouse, oui. Oui. Bon, on n'est pas trop loin. Je pense que Jean-Claude Léo voulait réagir... Non.
Oui, simplement pour revenir sur le phénomène de l'art, je pense que il faut. Je sais pas comment aborder le truc, mais pourquoi cette supercherie de l'art et ce truc de consommation? Mais il faudrait savoir, on est orphelin de quoi et ça remplace, ça peuple quoi dans ce manque? Je veux dire, je sais pas, je crois que c'est Nietzsche qui dit que s'il y avait pas l'art, on pourrait pas concevoir la vérité en face. Hein? Tu vois, je veux pas plus loin. Mais
c'est la réaction, Martine.
Je pense que c'est parce qu'on l'a pas assez dans notre éducation. On n'est pas assez baigné. Nous, on a la chance. Moi, j'ai mes parents. Il y en a plein. Voilà. Ils ont leur, ils sont dans un bain. Dès qu'ils naissent, le territoire, il fourmille de culture artistique, de cinéma et tout.
La culture artistique, ça n'existe pas. Est-ce que tu as vu passer la culture, traverser la rue?
Un manque de curiosité.
Et je crois que c'est lié. Il me semble que moi, quand je regarde des tableaux, quand je lis un livre, c'est le matin quand je suis aux toilettes et que je suis bien assis et que voilà, et il faut que ça passe dans les deux sens du terme.
Écoute, il faut inventer des bibliothèques à toilettes.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Ouais, complètement.
C'est une question d'intimité, de nourriture personnelle.
Oui.
On a Laurence ici présente, peut-être que tu pourrais nous apporter un regard à ces sujets, parce que tu travailles dans l'éducation, Laurence. Laurence qui est venue avec Martine.
Oui, tout à fait. Donc moi, j'accompagne Martine juste comme ça. Donc merci de m'avoir invité autour de la table. Les échanges qu'il y a sont assez intéressants sur l'art et puis sur le regard qu'on peut avoir sur l'art dans nos sociétés aujourd'hui. Pour revenir à Martine, ce qui est très intéressant chez elle, c'est sa pluralité. Sa vie aussi, donc c'est tout ça, enfin tout ce qu'elle a pu faire avant, toute la nourriture qu'elle a qui est autour beaucoup du vivant, de la joie, de la musique, hein. Tout ça c'est reflété dans ses tableaux, avec également sa culture artistique. Et par contre, moi, je pense qu'il y a une culture artistique. Je pense qu'il y a des références. Il y a un environnement qui nous permet d'avoir un regard sur l'art. Je crois beaucoup à ça.
Oui, d'accord. Et... on fait son marché personnellement. Je veux dire, c'est pas des produits sous cellophane. Ou...
Ah non, bien sûr, bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire.
Voilà, hein, je suis tout à fait d'accord. Après, chaque artiste le prend, en fait ce qu'il est aussi.
Oui.
Et ce qui transparaît beaucoup dans les tableaux de Martine, oui, c'est que les tableaux de Martine sont les tableaux de Martine. Il y a plein de références, mais il y a sa vie, il y a ses couleurs, il y a sa joie de vivre, et je crois que ça c'est, enfin, en tout cas personnellement, je sais que ça me touche beaucoup. Je suis pas très fan des artistes torturés, même si je peux y trouver aussi un regard sur la vie, je peux y trouver une émotion, ce que tu disais tout à l'heure, Léo. Oui, bien sûr, ça peut venir nous percuter à un moment donné. Après, moi, j'aime le beau et j'aime la joie. Voilà, donc si je pouvais conclure comme ça, ça serait ça. Voilà, merci.
Martine, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben, je suis super contente de tout ce qui s'est dit. Là, c'est chouette, ça me donne envie de dessiner. Je voulais faire ton portrait, mais merci beaucoup.
Oui, ça viendra, ça viendra.
Nous étions deux, Et j'ai dit oui à son ennui. Si je le pouvais, je le regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calcul pour ce scandale. Cette fois, j'ai gagné la bataille. Le jeu avance. C'est toi qui abandonneras. Pris d'une névrose. La fièvre, je te dans les bras. La fièvre, je te dans les bras.
La femme, le groupe qui a été révélation musicale de l'année. Et le titre, c'était Nous étions deux. Et c'est super de chanter ça sur les remontées mécaniques en faisant du ski, ça donne la pêche. Et quand on fait de la peinture aussi, c'est pas mal. Et en ce moment, je prépare pas trop d'expos. Tu vois, Rosendo, là, je suis.
Avant de tout sauter déjà des coca-là,
est-ce
que tu vois? Oui, c'est très bien. On a encore quelques minutes. Oui, t'as le temps. Non, parce que je voulais revenir un petit peu sur ce groupe qui s'appelle La Femme.
La Femme.
Et les titres de ce que nous venons d'écouter s'appelle Nous étions deux, mais en fait, il faut que je fasse une précision parce que vous étiez quatre. Parce que au moment que vous êtes allé écouter ces groupes, vous n'étiez pas deux, toi et Laurence, Martine, mais vous étiez quatre, n'est-ce
pas? On peut dire qu'on était même des centaines, hein, parce que ce groupe, il est super.
Oui.
Il marche super bien, ça vient du Pays Basque, c'est une chouette découverte. Alors là, j'ai ce choix musical. C'est un petit peu moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'écoute, voilà, j'écoute des tas de trucs, j'écoute Zenzile, j'écoute des tas de choses, mais j'ai choisi ça parce que ça me donne la pêche. Et que je l'écoute souvent en peignant, et c'est contemporain.
Oui, mais c'est un contemporain qui a recréé les instruments des années 80.
Oui, voilà, oui. C'est de l'électro. C'est des gamins, je les ai vus. Ils sont tout jeunes, là. Ils ont 3 poils sur le menton.
Oui.
Et ils ressortent les synthés et le style un peu années 80, le beat des années 80, et ils mettent des paroles un peu loufoques là-dessus, et ça marche bien. Puis ça s'appelle La Femme, mais il n'y en a qu'une de femme. Sinon, c'est que des jeunes hommes.
Ah, ouais.
Très mignons.
Bon, très bien. Donc maintenant, je t'invite, Martine, à nous présenter ton actualité, tes projets, ce que tu penses faire.
Alors, mon actualité, c'est de filer au Festival International d'Animation d'Annecy. Ça va être un peu mon rendez-vous annuel. Il y a tout le monde, la planète internationale des créateurs de films d'animation, que ce soit des films d'art contemporains, expérimentaux, ou alors les films publicitaires avec de la pâte à modeler, tout ça, qui se retrouvent pour un énorme marché du film d'animation. Donc toutes les télés, les chaînes câblées, tout le monde se retrouve là-bas, à Annecy, chaque année. Et c'est là qu'on a les avant-premières de tous les films qu'on va voir pour les gamins et aussi pour les adultes. C'est passionnant, c'est une de mes passions, le film d'animation.
Puisqu'on parle de tes passions, parmi des modèles dans ces champs artistiques qui est les films d'animation, je pense que Miyazaki a joué beaucoup, n'est-ce pas?
Oui, Miyazaki a joué beaucoup. Je suis fan, et bizarrement, j'ai découvert ça il y a au début des années 2000 avec mon voisin Totoro, mais je connaissais pas trop le reste de ce qu'il avait fait. Et il y a un contraste, je sais pas si ceux autour de la table connaissent un peu Miyazaki. Il y a un contraste saisissant entre sa façon de faire ses gros bonhommes avec des gros yeux et un point noir au milieu et sa façon de traiter le paysage. Il traite les paysages comme un anglais qui fait de l'aquarelle au 18e siècle, quoi. C'est impressionnant. Et j'aime bien ce contraste.
Oui, mais il y a de l'humour dans ce qui représente avec ces bonhommes, par exemple,
oui.
Cette espèce de contraste entre la masse d'un personnage et sa douceur,
ouais.
et tous les décors qui va avec. Et ça me fait penser un petit peu aussi à une autre référence que tu as, à Nicky Sanfal, avec ses... Comment on appelle, c'est Nana, les super nanas.
Ouais.
Oui.
Ça va. Je passe assez vite sur cette référence quand même parce que Nicky de Saint-Fal, elle a trouvé ses grosses bonnes femmes rigolotes. Je trouve ça chouette, mais parce que j'aime bien ses couleurs acidulées,
oui.
Ce côté disproportionné, c'est rigolo, mais bon, voilà. Après, j'aime pas toutes les dérives que ça a donné parce qu'ils en ont tous fait du Nicky de Saint-Fal. Et donc, c'est voilà.
Oui.
Mais bon.
Et par rapport à la peinture, tu nous prépares quelque chose en 2014, 2015?
Ouais, prépare une expo dans les Deux-Sèvres, dans une grosse rencontre d'artistes près de Poitiers. C'est super à loin, mais bon, je mettrai des photos sur mon site.
Oui, effectivement, je profite pour en parler à nos auditeurs parce que sur le site, vous tapez Martine La Taste, et on trouve vite ton site. Je ne sais pas si tu es référencé ou tu es très consulté, parce que tout de suite on trouve, on n'a pas besoin de
parce
chercher.
Que j'ai un bon webmaster.
Ah, c'est toi qui t'occupes de ton
non,
site
c'est pas
aussi.
Moi, non, c'est une amie, c'est une amie. martinelataste.com, ouais, tout simplement, ouais. Mais
oui.
J'ai un peu bataillé pour que ça arrive, parce que c'est pas facile. Il faut dire que avant, il y a pas si longtemps, quand on tapait Martine Lataste, on tombait sur moi en train de faire de l'accordéon.
Ah oui.
évidemment. Mais donc j'essaye de remettre un peu, redresser la barre sur le pictural. Voilà.
Oui, oui. Mais est-ce que toute cette activité, cette hyperactivité, c'est-à-dire l'accordéon, la peinture, les webmasters, s'occuper de ton site, ça ne te disperse pas, Martine?
Voyons, tu veux faire mon psy? Mais bien sûr que non. Tout va dans le même sens, Rosendo. Oui. Si tu réfléchis bien.
Oui.
Tout va dans le même sens.
J'y vais bien réfléchir. Parce que j'arrive pas à m'en sortir.
Mais parce que, c'est parce que si je prends ta vie et que je la regarde et que je concentre tout, je vais trouver que vraiment, il y a trop de choses. Mais si je l'étire comme elle doit l'être, tout est bien rangé dans les bonnes choses. Oui. L'accordéon, j'en fais très peu quand même maintenant. Je fais plus partie du bal. Non, j'ai arrêté. Ah ben non, sinon je pourrais pas faire tout ça.
Ah,
en effet.
Voilà,
ah pardon, tu savais pas. J'ai arrêté il y a un an.
Voilà.
Oui. J'ai arrêté il y a un an.
Oui.
D'être dans les bombes de bal. Donc je suis toujours la première fan, mais j'ai quitté le groupe pour pouvoir m'accomplir autrement.
Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça confirme ces soupçons que j'avais. Comment
oui,
elle s'est débrouillée cette nana pour. Alors, une réaction, Léo, Jean-Claude?
Oui, j'étais très heureux de faire la connaissance de ces charmantes personnes.
De même. Bah, si, moi, j'ai un petit truc à rajouter, si on a quelques secondes.
Oui.
La grande problématique que j'ai eu à affronter, c'est est-ce que je veux faire comme tous les gens que je rencontre qui me disent « Bon alors tu vends des tableaux, t'es artiste, tu vends. » Ce côté consommation qu'on avait écouté et évoqué. Ou est-ce que je veux créer des choses pour faire un petit peu avancer la vision du monde, des choses ou montrer la vision que j'ai de la vie, des choses qui m'entourent, en les détournant, en les rendant plus rigolotes ou plus énigmatiques, voilà. Donc ça, c'était la grande problématique qui a vite été balayée parce que je veux pas vendre mon âme au diable. Je veux faire des choses qui me ressemblent. Mmh. Je veux être moi-même.
Voir
et
la
si
musique.
Ça ne vend pas, ce n'est pas grave du tout parce que c'est tellement riche, c'est tellement riche d'expériences que ça, c'est une nourriture.
Merci Martine, merci à tout le monde qui était présent ici, comme à la technique. Et donc, merci Léo,
merci.
Jean-Claude, Laurence, Charlotte aussi, qui était présente au plateau. Et je vous dis à bientôt. Martine à la taste, n'oubliez pas de voir son site et si possible, voir en direct ses œuvres. Je vous dis à bientôt.